Bénis pour l'info. Bonsoir Olivier.
Bonsoir à toutes et à tous. Ascoval sauvée, la scierie nordiste a finalement un repreneur britannique. Elle avait été placée en redressement judiciaire il y a 2 ans. Pour ses 268 salariés, c'est une belle étape de franchie. Les suites du 1er mai, une journée de manifestation marquée hier à Paris par des milliers de contrôles préventifs, plus de 300 interpellations et des débordements. Nous irons au tribunal où plusieurs personnes arrêtées hier passées en comparution immédiate. Nous reviendrons également sur cette intrusion à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière 24 heures après les faits et presque autant d'emballements. On sait désormais exactement ce qui s'est passé et c'est très éloigné de la version du gouvernement. Le projet de loi sur l'école arrive au Sénat. Jean-Michel Blanquer veut y convaincre une opposition féroce, quitte à abandonner une mesure importante. Enfin, en attendant de connaître la sélection officielle révélée ce soir en direct à la télé, nous reviendrons sur le long parcours du mondial féminin de football pour attirer l'attention du grand public. Juste après ce journal, vous revenez pour le téléphone sonne, Fabienne.
Absolument, on parle de l'aide sociale à l'enfance ce soir et surtout de ceux qu'on appelle pas très joliment les enfants placés. Savez-vous qu'un quart des sans-abri de 18 à 25 ans sont des enfants placés? C'est un vertige dû en partie au fait qu'après 18 ans, c'est fini. Plus rien ni personne pour s'occuper d'eux, sauf pour ceux qui ont la chance de bénéficier un temps d'un contrat jeune majeur. Un projet de loi est discuté lundi justement pour faire en sorte que tous les enfants placés aient droit à la même chose. On en parle ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter. 4 années, il aura fallu 4 années d'abattement, de colère, de lutte pour arriver à une reprise de la scierie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord depuis une première restructuration en 2015 jusqu'à la décision du tribunal de grande instance de Strasbourg aujourd'hui qui désigne donc la société British Steel comme repreneur. Il devrait reprendre l'activité et l'ensemble des salariés. Bonsoir Maxime Deps.
Bonsoir.
C'est donc la fin d'un très long feuilleton, hein.
Ouais, une fin heureuse, sans effusion de joie, clairement. Et pour cause, Bruno Kobzinski, syndicaliste qui a mené le combat ces derniers mois.
Le vécu est là. Le vécu et le mauvais coup altifort est encore présent chez nous. Et on va s'assurer que ça parvient et y aller progressivement.
Surtout, ne pas s'enflammer. Les salariés savent d'où ils viennent, qui étaient donnés pour morts. Ce sont leurs mots, hein. Il y a encore 2 mois, lorsqu'altifort a jeté l'éponge, Valentin laisse tout de même un peu retomber la pression.
On a des gens super compétents, on a un outil de travail qui est ultra moderne. Maintenant, il faut lui donner à manger cet outil, et puis bah, ça va le faire, tout simplement.
Ça va le faire au grand bonheur de Bruno Le Maire, le ministre qui a fait pour la peine aujourd'hui le déplacement express.
C'est une jolie fin, et ça arrive suffisamment rarement pour que ce soit souligné. La première leçon à tirer, c'est que quand on veut, on peut.
Quand on veut, on peut, Nassim Bardi de la CGT est bien d'accord.
Je dis au ministre que l'État peut tout. L'État peut tout. Mais je vous le dis, hein, on le doit surtout aux salariés. Voilà.
Un autre salarié d'abondé. On a quand même ce soir, on a quand même été longtemps seul avant que l'État n'accepte enfin de regarder le dossier.
Merci beaucoup Maxime Deps.
Allez, retour à présent sur ce 1er mai, cette journée de manifestation nationale qui s'est déroulée dans le calme un peu partout, sauf à Paris.
40 000 personnes étaient rassemblées, on le rappelle, dans la capitale, selon notre comptage par le cabinet Occurrence. Mais il y a eu un moment en particulier qui a bien plus fait parler depuis hier. Et il a fallu du temps pour dissiper la fumée autour de ces circonstances. Hier soir, dans ce même journal, nous évoquions l'intrusion de plusieurs dizaines de personnes dans l'enceinte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Petite foule qui a ensuite tenté de passer par une porte menant à un service de réanimation. Toute la question, c'était de savoir pourquoi et comment ces gens s'étaient retrouvés là. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Vous couvriez donc hier la manifestation pour France Inter. 24 heures après, avec de nombreux témoignages, photos et vidéos, on sait presque minute par minute ce qui s'est passé hier.
Et il y a notamment 2 vidéos publiées en début d'après-midi sur Facebook qui éclairent précisément ce qui s'est passé. C'est un personnel de l'hôpital qui filme. On voit les manifestants comprimés derrière la grille extérieure de cette entrée de service. Au 97 boulevard de l'hôpital, la grille cède, les manifestants entrent. Une trentaine d'entre eux montent ensuite un petit escalier de service extérieur. Et sur cette vidéo que vous pouvez visionner sur franceinter.fr, les personnels situés au premier étage, derrière la porte de réanimation, les empêchent d'entrer.
Ils sont pacifistes avec vous, tout va bien se passer.
Les manifestants repartent dans le calme escortés par les forces de l'ordre et les personnels soignants commentent.
Non mais ils savaient pas, ils ont juste cherché une issue possible, c'est tout en fait.
Léa, externe dans le service, était derrière cette porte vitrée dès hier soir au micro de Thibault Lefèvre. Elle précise que les manifestants ont surtout, selon elle, fui la police.
C'est vraiment le mouvement de foule qui faisait peur. C'était pas le fait que ce soit des Black Blocs, des Gilets jaunes. C'était vraiment le mouvement de foule. Il y avait particulièrement une dame qui pleurait, genre une soixantaine d'années, qui pleurait parce qu'elle s'était retrouvée là par dépit. Enfin, elle était dans la manifestation, mais elle s'est retrouvée là un peu par hasard. Et elle voulait clairement un endroit pour se réfugier.
Alors l'assistance publique Hôpitaux de Paris nous précise que dans le courant de l'après-midi, un vidéoprojecteur a été volé dans le service de chirurgie digestive, mais aucun lien ne peut être établi avec la manifestation pour l'instant. La directrice de l'hôpital précise enfin que des jets de projectiles ont eu lieu sur l'entrée principale située à une centaine de mètres.
Alors on connaît l'expression shakespearienne, beaucoup de bruit pour rien. Le bruit aujourd'hui, il est aussi beaucoup venu des politiques.
Oui, hier, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, évoquait une attaque sur Twitter. Il assurait notamment qu'on avait agressé le personnel soignant. Ce matin, Agnès Buzyn, sa collègue de la Santé, n'a pas parlé d'attaque. Elle a simplement rappelé qu'une enquête est en cours. Déluge de critiques cet après-midi. Jean-Luc Mélenchon dénonce un mensonge du ministre de l'Intérieur. Pour Benoît Hamon, si le but de Christophe Castaner était de disqualifier la mobilisation sociale, eh bien, il doit être démis de ses fonctions.
Merci beaucoup Rémi Brancato pour ces précisions. L'autre aspect plus global de cette manifestation d'hier, c'est que contrairement à l'an dernier, elle a presque été moins marquée par les débordements que par la réponse policière, avec en particulier des contrôles préventifs draconiens dès l'entrée de la capitale. Plus de 15 000 au total dans la journée. Plus de 300 interpellations. Et parmi ces interpellations, 8 passées en comparution immédiate aujourd'hui. Bonsoir, Aurélie Carive.
Bonsoir.
Vous êtes en direct du palais de justice de Paris et vous nous racontez l'histoire de l'un de ces prévenus.
Oui, celle de Johan, 21 ans, pas de boulot malgré un bac pro de cuisinier. Il vit chez sa mère dans le Var et c'est en fin de matinée hier, avant le départ du cortège, qu'il est interpellé quartier Montparnasse. Dans son sac, des protège-tibias, un masque de ski, des vêtements noirs et des billes. Les billes, c'était pour jeter par terre et détourner l'attention en cas de contrôle de police, plaide le jeune homme, cheveux bruns en bataille et silhouette menue. Sur son téléphone portable, des messages retiennent l'attention. Manif demain, la guerre, quoi. Ou encore, avec les Black Blocs, l'appartement, c'est gratuit. La veille de la manifestation, il a justement été hébergé à Paris par quelqu'un qu'il n'avait jusque-là jamais rencontré. La procureure lui lance « Vous en pensez quoi des Black Blocs ?» Réponse « Ils mènent des actions très violentes. Vous n'en faites pas partie ?» Non, dit le prévenu, les vêtements noirs, c'était juste sa tenue de rechange pour les 3 jours passés à Paris. Pour son avocate, bien qu'extrêmement politisé, Johan n'est pas dangereux. À la limite, un petit con, je reprends ses mots, qui se fait mousser sur Snapchat. Et puis, ce n'est pas avec un sac de billes pour enfants qu'on va aller caillasser la police. Il vient d'être condamné à 3 mois de prison avec sursis, obligation d'effectuer un travail d'intérêt général et interdiction de se rendre à Paris.
L'Aurélie Carive, en direct du palais de justice de Paris. Réduire les niches fiscales dans les entreprises. C'est l'un des grands axes du gouvernement pour tenter de financer la baisse de l'impôt sur le revenu. Du côté des entreprises, le projet fait toujours grincer des dents, même si Bruno Le Maire assure aujourd'hui que les discussions sont fructueuses avec le MEDEF. Delphine Simon.
L'équation sera difficile à boucler car derrière chaque niche fiscale se cache un bulldog, dit-on à Bercy. Matignon exclut de toucher au CICE transformé en baisse de charges. Pas question non plus de sabrer dans le crédit impôt recherche qui attire les centres de recherche et développement dans l'Hexagone. Et difficile de toucher aux niches TVA dont bénéficient les entreprises dans la restauration ou les travaux de rénovation sous peine de faire basculer des milliers de salariés dans le travail au noir. Quant aux exonérations sur le gazole non routier, impossible de les supprimer du jour au lendemain, reconnaît-on. Reste plusieurs pistes, comme l'exonération de taxe carbone sur le carburant des avions. Cela rapporterait 500 millions d'euros pour les vols domestiques ou encore les niches du secteur HLM, plus d'1 milliard d'euros. Bercy se montre rassurant. Les niches fiscales ne financeront pas la totalité des 5 milliards de baisses d'impôts sur le revenu. Il y aura aussi des économies sur les opérateurs publics, rappelle Bruno Le Maire au MEDEF de faire des propositions. La concertation doit durer tout le mois de mai. Quant aux arbitrages, ils seront rendus par Matignon le mois prochain.
Une autre mesure annoncée par le gouvernement aujourd'hui, celle-là par Édouard Philippe lui-même, une réforme du permis de conduire. L'objectif, c'est que le prix moyen pour passer ce permis baisse à terme d'environ 30%. Autre grand projet de la majorité, l'école de la confiance, portée avec enthousiasme par Jean-Michel Blanquer, un enthousiasme quelque peu douché ces derniers mois. Le texte adopté le 19 février à l'Assemblée nationale arrive le 14 mai au Sénat. Dans un un contexte bien plus compliqué. Le ministre de l'Éducation nationale va même devoir lâcher du lest sur les établissements de savoirs fondamentaux qui devaient rassembler écoliers et collégiens. Il faut dire qu'en face, la majorité LR est très remontée contre le projet, Sonia Princé.
Les sénateurs ne mâchent pas leurs mots et parlent d'une méthode cavalière, d'un texte mal rédigé, mal bâti, d'une absence de concertation et de cohérence. Pour Max Brisson, le rapporteur du texte au Sénat, le projet de loi Blanquer manque de sens. Et sur le point sensible des établissements d'enseignement des savoirs fondamentaux, les avis sont unanimes. 14 amendements de suppression de l'article ont été votés en commission, comme le dit Max Brisson, lui-même ancien inspecteur de l'Éducation nationale.
Le Sénat a écouté les territoires. Dans les territoires, il y a des élus, il y a des maires, il y a des enseignants, il y a des directrices et des directeurs, et il y a des parents. Et tous nous ont dit cet article est mal écrit, il nous inquiète, on ne le comprend pas. Donc nous avons décidé en effet de supprimer cet article, ce qui ne veut pas dire que des sénatrices et des sénateurs qui trouvent que dans l'école du socle, que dans le rapprochement entre le collège et les écoles, il y a du sens, ne déposeront pas des amendements après avoir écouté ce qu'ont dit les territoires. Mais ce qui est mauvais dans le projet de loi Blanquer, c'est que c'est tombé d'en haut, qu'on a mis l'outil avant l'objectif. L'objectif, c'est de la mise en réseau sur des territoires où c'est nécessaire, c'est certainement pas nécessaire dans Paris.
Dans les zones rurales, en revanche, le dispositif peut être utile s'il fait l'objet d'un consensus. C'est dans ce sens que des amendements seront très certainement proposés en séance lors du débat à partir du 14 mai.
Et si on étendait le congé paternité ? C'est une idée qui fait petit à petit son chemin en France, mais qui pourrait aller plus vite dans le cas de pères d'enfants prématurés. 60 000 naissent chaque année en France et ils demandent une attention toute particulière. Or, le congé paternité actuel n'est que de 14 jours. C'est insuffisant pour les parents comme pour les médecins. Le 1er juillet va donc entrer en vigueur un décret pour l'allonger, 30 jours supplémentaires si l'enfant doit être hospitalisé à sa naissance. Le secrétaire d'État Adrien Taquet était en visite ce matin à l'hôpital Robert Debré à Paris pour évaluer la nécessité de cette mesure. Le reportage de Lisa Guyenne.
Elle s'appelle Léna, elle est née à 5 mois et demi de grossesse.
Derrière les vitres du service, de minuscules bébés intubés dans des couveuses, surveillés 24 heures sur 24 par l'équipe soignante.
Chantal Ergotte, je suis cadre supérieur de santé. Pour un enfant qui, par exemple, va être né à 24 semaines d'aménorrhée, 500 grammes, il peut rester 2-3 mois. Mais le fait que les parents soient beaucoup plus présents réduit les temps d'hospitalisation, autant la maman que le papa.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les pères n'ont droit qu'à 14 jours de congé, même si leur enfant est hospitalisé. Charlotte Bouvard est mère d'un garçon né avec 9 semaines d'avance. Elle a fondé l'association SOS Préma.
Il y a la charge psychologique de laisser sa femme tous les matins partir en néonate seule dans l'état dans lequel on peut imaginer qu'elle est. Laisser son enfant seul entre la vie et la mort et partir à son travail, c'est quelque chose qui paraît tellement surréaliste. La place du père est auprès de sa famille.
Un avis que confirme le secrétaire d'État Adrien Taquet à la fin de sa visite.
Il y avait un père qui était là, mais c'est vrai que c'était essentiellement des mères qui étaient là ce matin. Mais c'est bien la preuve que ce nouveau congé paternité qui sera en œuvre dès le 1er juillet prochain est absolument nécessaire.
Nécessaire mais pas suffisant selon SOS Préma. L'association demande à ce que le congé paternité couvre toute la durée d'hospitalisation du bébé.
Il est censé devenir l'Airbus des batteries. Un projet coopératif européen vient d'être détaillé par les ministres français et allemands de l'économie. Entre 5 et 6 milliards d'euros vont être investis pour fabriquer des batteries automobiles de 4e génération à partir de 2020. L'objectif, c'est d'assurer une indépendance européenne sur ces technologies et de remplacer dans quelques décennies tous les véhicules à carburant actuels par des versions électriques. D'ici là, la Grande-Bretagne ne fera peut-être plus partie de l'Union européenne, mais en tout cas, elle a décidé elle aussi d'agir pour l'environnement. Dans un rapport publié aujourd'hui, les conseillers du gouvernement sur le climat recommandent de réduire à néant toutes les émissions de gaz à effet de serre du pays d'ici 2050, ce qu'on appelle la neutralité carbone. Donc, cela passe par un arrêt progressif des ventes de véhicules à essence ou diesel en 2030 et par une réduction de 20% de la consommation de viande et de produits laitiers. Fini le nuage de lait systématique dans son thé.
Il est 19h14 sur France Inter au Bénin. Ce jeudi, l'armée et la police locale ont brutalement délogé des centaines de manifestants par des tirs d'armes automatiques.
Oui, des manifestants qui entouraient la résidence de l'ancien président Boni Yayi en signe de soutien. Selon des témoins sur place, l'intervention a fait plusieurs morts. Alors, pourquoi cette flambée de violence ? Tout est parti des élections législatives marquées par un fort taux d'abstention et dont la commission électorale vient de rendre public les premiers résultats. Des résultats que tout le monde conteste, y compris l'opposition, Nathanaël Charbonnier.
La situation est plus qu'explosive au Bénin, d'autant que tous les ingrédients sont réunis. Le pays sort d'élections législatives contestées. Il faut dire que l'opposition n'a pas eu le droit d'y participer, que le taux de vote est en dessous de 25% et qu'à l'arrivée, les 83 sièges du Parlement sont censés revenir aux deux partis qui soutiennent le président Patrice Talon. Un président élu démocratiquement en 2016, mais qui semble d'ores et déjà vouloir s'accrocher au pouvoir avec tous les moyens qu'aiment utiliser les dictateurs. Opposition brimée, coupure des liaisons Internet, intimidation des journalistes et recours à la force pour ramener le calme. Dès la semaine dernière, l'inquiétude était de mise, puisque l'ex-chef de l'État s'était exprimé pour demander au président d'interrompre le processus électoral et à la population béninoise de se soulever dans un sursaut patriotique. Parallèlement, l'Union européenne, embarrassée, avait décidé de suspendre sa délégation d'observateurs, comme pour dire qu'elle n'entendait pas cautionner les élections qui s'annonçaient. Enfin, Amnesty International et de nombreuses associations locales de la société civile avaient dénoncé bien avant les incidents de ce jeudi un niveau de répression alarmant.
Ce n'est pas une surprise. Julian Assange refuse d'être extradé vers les États-Unis, comme le réclame Washington à Londres. Le fondateur de Wikileaks comparaissait aujourd'hui pour la première fois sur ce sujet en vidéoconférence depuis la prison où il est détenu depuis le 11 avril. Il estime que cette extradition condamne, je cite, un travail de journalisme qui a récolté de nombreuses récompenses et protégé beaucoup de gens. Il faudra sans doute plusieurs mois d'audience avant d'aboutir à une décision. Julian Assange a d'ores et déjà été condamné hier à 50 semaines de prison pour violation de sa liberté conditionnelle. C'est un énorme scandale qui vient de pousser le ministre chypriote de la Justice à démissionner. Chypre qui vient de mettre la main sur le premier tueur en série de son histoire, un officier de l'armée qui a avoué 7 meurtres de femmes et de petites filles. Le ministre a quitté son poste en soulignant des manquements dans la manière dont la police a enquêté sur des disparitions de femmes. Elle aurait négligé beaucoup trop longtemps ces disparitions avant de comprendre la gravité de l'affaire.
Allez, le mondial féminin de foot approche à grands pas et ça va se voir dès ce soir, Olivier.
L'équipe de France féminine de football sera révélée tout à l'heure en direct sur TF1 par la sélectionneur Corinne Diacre, un peu plus d'un mois avant le début du Mondial 2019 qui a lieu en France cette année, du 7 juin au 7 juillet. On saura donc quelles joueuses défendront les couleurs françaises dans la foulée de leurs homologues masculins l'an dernier. Une sélection très attendue, très médiatisée, très suivie. C'est une première à cette échelle et ce n'était vraiment pas gagné car il n'y a pas si longtemps, Laetitia Bernard, le Mondial féminin, on avait la désagréable impression que ça n'intéressait personne.
Lors du dernier mondial féminin en 2015, l'annonce des joueuses sélectionnées avait eu lieu un matin de semaine au siège de la Fédération française de football, sans mise en scène. L'auditorium était à peine à moitié rempli et on comptait une grosse poignée de journalistes. Cette fois, on change de dimension, le show est d'une toute autre envergure sur TF1 qui va retransmettre toutes les rencontres des Bleus. Et c'est le secret le plus complet autour du nom des 23 joueuses retenues. Une différence tout de même avec le dispositif des hommes, l'annonce aura lieu à la fin du 20h après un reportage qui permettra au grand public de se familiariser avec les joueuses, car il faut reconnaître que peu de Français connaissent encore les noms et les visages des footballeuses de l'équipe de France. Ensuite, ce sera à Corinne Diacre de jouer, comme l'avait fait Didier Deschamps avant le Mondial en Russie. Rappelons que le match d'ouverture de ce Mondial féminin en France, c'est le 7 juin à Paris, entre les Bleus et la Corée du Sud, et il se jouera à guichet fermé.
Allez, on termine avec une bonne nouvelle pour les amateurs de scénarios à tiroir et de dialogues qui désinguent. Quentin Tarantino va bien présenter son nouveau film à Cannes, Once Upon a Time in Hollywood, avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. 25 ans après sa palme d'or pour Pulp Fiction, le réalisateur chéri de La Croisette tenait à tout prix à être présent. Il a donc passé 4 mois enfermé en salle de montage pour boucler son film à temps. Pour nous autres spectateurs pas invités à Cannes, il faudra être patient jusqu'au mois de juillet avant de voir le film en salle, mais Brad et Léo sont à ce prix, Fabienne.
Voilà, Quentin Tarantino, comme vous dites. Merci Oliver Bénis pour le journal. Le téléphone sonne, c'est dans un instant. Merci de nous écouter. Bonne soirée avec nous.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et Sébastien Léas, qu'est-ce qui se passe niveau météo? Eh bien, c'est un temps encore perturbé prévu demain.
Effectivement, la journée s'annonce agitée sur le relief avec des averses tout au long de la journée et même de la neige à assez basse altitude pour la saison. Des 1200 mètres sur les Pyrénées, 1300 mètres sur le Massif central, 1600 mètres sur les Alpes. Dans les plaines du sud-ouest, après une matinée sous la pluie, on retrouvera quelques éclaircies mais qui resteront entrecoupées d'averses demain après-midi. Le soleil sera généreux en Corse, mais le ciel sera bien voilé, voire laiteux sur la Provence et le Languedoc avec même quelques ondées. Le temps sera plus changeant ailleurs. avec alternance de nuages et d'éclaircies. Les éclaircies seront plus franches l'après-midi, mais il faudra parfois composer avec des passages d'averses. Seules les plages de l'Atlantique et de la Manche auront un temps sec demain après-midi, avec même un ciel plus dégagé entre les côtes landaises et vendéennes.
Et sinon, les températures baissent encore.
Oui, de plus en plus de fraîcheur et cette baisse va se poursuivre jusqu'à ce week-end. Demain après-midi, il fera à peine 11 degrés à Dieppe et à Lens, 13 degrés pour Aurillac et pour Pau, 15 degrés à Quimper, Cherbourg, Bourges, Paris, Mulhouse et Albi. On ira jusqu'à 16 degrés à Strasbourg, Bordeaux et Nantes, 17 degrés pour Grenoble, 18 à Nîmes, 20 degrés quand même pour Fréjus et jusqu'à 22 degrés sous le soleil de la Corse.
Sébastien Léas de Météo France, merci.